Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens, pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Ce soir, une émission...
Vas-y, qu'est-ce qu'elle fait ? Vas-y ! L'édito du lundi 20 mars 2023 du Monde Merveilleux d'après. Le colonialisme, sous sa forme traditionnelle ou originelle bien connue, a fait les beaux jours de l'impérialisme occidental du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. À l'heure de la mondialisation capitaliste, un néocolonialisme s'est accommodé aux velléités d'indépendance nationale et exporte désormais à tous son modèle économique. Aujourd'hui, c'est la journée internationale sans viande, et par extrapolation, dirais-je, les insurgés de la Concorde et des régions, qu'ils soient en gilets jaunes ou drapés de rouge et de noir, ne veulent plus payer de rente à la bourgeoisie écœurante, car c'est sur notre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Alors comment ne pas avoir de sang sur les mains ni dans la bouche ? Vous le saurez en écoutant le monde merveilleux du travail. Mais tout de suite, on va passer aux mémoires d'un nanar. Ma chronique thérapeutique.
C'est une histoire assez curieuse.
Qu'est-ce que tu dis ?
Toi, si jamais tu me redis qu'est-ce que tu dis, je vais finir par te le dire, tu vas voir.
Qu'est-ce que t'es con, ça trompe.
La France, pays de l'exception culturelle. En voilà une belle formule. Parce que dans les autres pays, c'est pas pareil. Nous, c'est le pays de la culture et de l'art. L'art, notre art, c'est quoi et où le trouve-t-on ? On le trouve dans les autres pays, les ex-pays conquis de préférence, les anciennes colonies, quoi. Ça coûte moins cher et c'est pré-mâché. Au départ, c'est le tribut du vainqueur. Avec le temps, ça devient une œuvre unique qu'on installe sur la place publique. Pour l'obélisque, c'est la place de la Concorde. Où ça se montre dans les musées nationaux aux touristes étrangers dépossédés de leurs biens nationaux. Personnellement, s'il y a un domaine culturel qui m'indiffère, c'est bien l'art. À l'exception de la musique et du cinéma, j'en ai rien à foutre. Mais ce que j'écoute et ce que je regarde est-il de l'art ? C'est bien ça le nœud du problème, si le problème il y a. Qui comprend l'art et qui produit de l'art ? Vous trouverez toujours un esthète qui vous expliquera comment comprendre ce qui en est ou n'en est pas. Mais bon, s'il faut réfléchir en plus, déjà qu'on paye le billet d'entrée au salon. On compte maintenant 10 arts. Il y en a eu longtemps 7, comme pour les merveilles du monde, la 8e étant King Kong, le singe géant de l'île Lucrane. Donc il y en a 10. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît le mieux. Les séries télé et les jeux vidéo sont encore ce qu'il y a de plus tentant. Tu pratiques l'art et tu restes chez toi, tranquille. Parce que ce n'est pas tranquille, les musées. Jadis, dans les années 90, j'ai travaillé dans l'audiovisuel et j'ai eu la chance d'avoir visité le musée des Ardennes de Charleville-Mézières avant son inauguration et l'ouverture au public. Il n'y avait que le conservateur, une historienne et son jeune mari Volage, mais ne le savait pas encore, et moi donc. T'avais pas un bruit, les allées étaient vides de monde. Aujourd'hui, tu vas au Louvre. Tu as un troupeau de touristes abétis, l'œil torve, qui se prend en selfie devant les statues. Chaque visiteur passe à la queue leu-leu d'une œuvre à une autre avec des sourires niais. Ça m'est exaspère tant que je ne fréquente plus ce genre d'endroit. Quand je ressors du musée, je me souviens que des abrutis qui m'empêchent de bien voir et qui ont dégoissé commentaires absurdes et ineptes. Ça me rend agressif. Du coup, je n'en sors pas enrichi des meilleurs sentiments constructifs, mais dans un état d'esprit proche de Sundy ou Clausewitz, qui à leur manière ont développé une certaine forme d'art, il paraît, dont ils ne se départiraient pas. L'art est donc aussi destiné à la populace. C'est en fait un tiroir-caisse, comme le centre commercial. Un commissaire priseur a donné une estimation, et toi, esthète de nœud, tu t'extasies devant le chef-d'œuvre désigné. Mais est-ce bien le tableau de Gustave Courbet, la sculpture de Balthazar Lobo, la photo d'Henri Cartier-Bresson que tu admires ou le prix que l'on a attribué à leur travail ? Bon, j'ai peut-être pas choisi les plus représentatifs, hein, mais les libertaires à l'écoute apprécieront mon choix d'exemple. Il faut bien admettre que les goûts de nos contemporains sont conditionnés par le parcours des guides touristiques et les propositions des tour opérateurs. Il y a des lieux qu'il faut visiter et des œuvres qu'il faut avoir vues. Mes collègues ne s'y trompent pas. Je vais aller au musée du Louvre samedi. Tu vas voir quoi ? C'est grand pour le faire en une journée. Mais je ne sais pas, c'est ma femme qui veut y aller. Le week-end passé, tu redemandes. T'as vu quoi ? On n'a pas été, il faut réserver par internet depuis le Covid. Je ne savais pas, moi. Le Louvre nous dit d'un air assuré le responsable du labo où je bosse. Je l'ai déjà vu, j'étais en sixième. Plus de 35 ans se sont écoulés depuis la visite scolaire. Même quand tu te spécialises dans un des 10 domaines artistiques, tu n'es pas vraiment maître de tes choix. Mais, moi, par exemple, il ne me plaît que les œuvres des libertaires pour faire large, et je suis de parti pris. Je fais acte de militant, je suis donc allé à l'inauguration de la fresque hommage à la Nueve, de Juan Chicaventura, de rue Esquirol, à Paris 13. Un petit peu de pub au passage. Je vais aussi dans les cimetières, surtout le Père Lachaise. Je passe de Blanqui à Valèze, du mur des Fédérés à Nestor Macno. C'est un pèlerinage, mais je ne vole rien. Le 1er novembre 2022, 40 kilos de fer ont été volés dans le cimetière de Marseille. Tout le monde s'offusquait alors. Je peux comprendre le désarroi des familles endeuillées, mais c'est une pratique séculaire. Les tombeaux égyptiens n'y coupaient pas en leur temps, et surtout pas depuis l'engouement du public pour l'égyptologie. Après, tout dépend de la nature du commerce que l'on pratique et de la valeur morale qu'on applique à cette appropriation. Exhiber des momies, quand on ne les viole pas, cela a une valeur éducative. Voler du fer dans un cimetière, c'est un délit. Pour moi, ça reste mercantile. Pour en revenir à l'art et à sa conception, je conviens que des artistes s'expriment dans un domaine qui les touche. Et en ont-ils toujours vécu ? L'art est-il libre ? La période bleue de Picasso est imposée par le faible coût de la couleur dans un moment de dénuement total. D'autres n'ont pas eu à souffrir de pauvreté tant qu'ils peignaient les portraits des aristocrates qui leur commandaient. Bien sûr, chacun y apporte sa touche personnelle, bien que celle-ci n'est souvent que le reflet d'une représentation théologico-atavique. Ainsi considéré, l'artiste n'en devient-il pas un simple artisan ? Quant à l'artisan, on lui refuse la dénomination d'artiste. Il faudra attendre Pissarro pour trouver dans l'art une certaine forme de liberté artistique dénuée de tout prérequis culturel. Toute forme d'art, quand elle n'est pas autonome financièrement, n'est pas libre. On peut bien se poser des questions sur la nature de l'art. De toute façon, la bourgeoisie récupère l'art. C'est elle qui fixe le prix des œuvres, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut les acquérir. Elle qui fait monter les enchères. Ce n'est plus une œuvre artistique, c'est un investissement. Il ne reste plus aux pauvres que des produits de consommation à bon marché. Offrez des bons culturels aux salariés de votre entreprise, ils iront illico chez Disney. Le pauvre a mauvais goût, et en plus d'être ignorant, il fait des associations d'idées, ou plutôt de non-connus. C'est ainsi que j'ai appris que la Joconde a été peinte par Picasso. Ça me rappelle un jour, je chinais dans les brocantes des vinyles de musique classique. Je n'aime pas ces qualificatifs de genre, mais vous me comprenez. Je tombe sur un coffret dont l'interprète n'est autre que Maria Callas. C'est pas ma tasse de thé, la Callas. J'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres des auditeurs et des auditrices, faire vendre la diva. Donc je chine, je retourne dans tous les sens le coffret, je me tâte, j'ouvre, je lis et j'évalue l'état du disque. Le brocantier, comme appellent ces professionnels mon collègue de boulot, s'approche et me vante la qualité de l'enregistrement. Pour une fois, me dis-je, je tombe sur un brocanteur qui semble s'y connaître. On discute une bonne dizaine de minutes, non pas le prix, mais des artistes. Lui, il aime la Callas, l'interprète. Moi, je m'intéresse à l'auteur Vincenzo Bellini. L'enregistrement a été fait en Italie, en public, comme c'était courant à l'époque. Et il conclut, c'est un enregistrement rare, c'est un enregistrement pirate. Et là, tout s'effondre, car Il Pirata est un opéra seria en deux actes. Et lui, en beau commerçant ignare, il veut me le vendre parce, pour ce qu'il n'est pas. On ne peut faire confiance à personne. Pour finir, est-il de bon ton de réfuter une quelconque forme d'art qui n'aurait pas reçu l'aval de la bourgeoisie ? Peut-on aujourd'hui revendiquer son écœurement devant l'exploitation de l'image de Frida Kahlo sans se faire traiter de phallocrate ? L'art, je m'en fous, vous disais-je, et ce sentiment est renforcé par le totalitarisme culturel que nous impose la bourgeoisie dirigeante dans ses choix politiques, économiques et sociaux. Aujourd'hui, c'est les genres sexuels. Ce courant de pensée universitaire crypto-capitaliste qui détourne ce qui reste du monde ouvrier de la lutte des classes. Les productions Disney, Marvel, fabriquent-elles de meilleurs films depuis que ce sont des réalisatrices qui mettent en scène des actrices principales dont le rôle générique était attribué à des hommes ? Le prochain James Bond féminin sera-t-il plus bankable qu'avec Roger Moore ? Est-ce qu'il n'y aurait pas été plus original de créer un personnage féminin propre ? Le talent ne se décrète pas chez les moguls d'Hollywood, pas plus que le génie artistique chez les spéculateurs financiers. En revanche, et de tout temps, les plus aseptisés des opportunistes se feront mettre en valeur selon la tendance du moment et du portefeuille de leur carnet de contact qui escompteront un retour sur un investissement. Si vous n'avez que des amis chez Publico ou au 33 rue des Vignoles, vous pourrez remiser vos pinceaux et raccrocher vos appareils photo. Alors, vous le faites quand même, mais pour vous, d'abord pour vous, et ne laissez personne vous dénier que c'est de l'art ou du cochon.
Merci. Maintenant, vous êtes tous là, je vais vous emmener dans une petite soirée chez Madame de la Fressange. Le jeudi soir, on prend le thé. Aux trois de la rue Michel-Ange, tout le beau monde est invité. Je vous présente Monsieur Jean-Louis de la Fressange, dont le papa est rentier, directeur de la Barclays Bank et actionnaire de chez Chartier. Le professeur Van de Kleba, non, vous voulez dire le fameux chirurgien. Foucault, le grand historien d'art. Et Rubinstein, le musicien du Mozart, c'est délicieux. Il y a aussi la fille Fressange, qui tient une galerie d'art contemporain, et se passionne le dimanche pour le golf du côté de Saint-Ouen, c'est plus populaire. Dutreuil, le célèbre notaire, et Jean-Michel, son neveu avocat, Madame Annie de la Vassière, qui fut la maîtresse. Ça ne va pas, non mais il y a longtemps, non. On y parle de choses profondes, de Picasso à la toilette du chien, du cours de la bourse à Hong Kong, des réceptions de chez Chardin. Chez Madame de la Fressange, le jeudi soir on prend le thé, je vais vous dire. Il n'y a pas de raison que ça chante. Et ce soir, c'est particulier, en effet. Madame Annie de la Fressange est revenue d'un voyage au Congo. Elle propose à son assistance des petits fours et des diapos. Oh là là ! Ces Africains sont formidables. Ils continuent à pêcher, à chasser. Le soir, ils saignent des volailles et dans ce com, des possédés. Jean-Louis a essayé leur danse. Le pauvre s'est fait un torticolis. Non, Jean-Louis. Nous prendrons des cours le dimanche, dès notre retour à Passy. C'est promis, Jean-Louis. Montrez-nous ce qu'est l'assistance. Cette étrange façon de danser, n'est-ce pas ? Après un moment d'assistance, Jean-Louis commence à se déshabiller. Je me lance, c'est mon petit côté anard. On écarte les meubles du salon. On éteint même un petit peu les lumières. Jean-Louis a enlevé son veston. Et psalmodie, une prière. Allez, tous ensemble, monsieur Dutreuil, enlevez votre veste. Allez, la 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 montrez votre torse, monsieur Dutreuil, oui. Comme les Africains, voilà. Montrez votre torse, comme ça, allez-y. Vous êtes bon, monsieur Dutreuil. Il enfile un masque de transe, remis par un sorcier vaudou. Puis il se lance dans une danse, enfin se prosterne à genoux. Alors, il y avait des tas d'Africains autour de moi et amis, n'est-ce pas, il faisait nuit. Ils faisaient Unga, comme ça, avec leur langue. Unga, voyez-vous, c'était terrifiant. Puis il se lance dans une danse, qu'il semble parfaitement maîtriser, tout en regardant l'assistance, avec un air de possédé. Comme dans Jean-Louis, là, on dirait un noir. Tout à coup, il prend Michel et lui enfonce la fourchette dans les yeux. Puis il s'empare d'une terre et strangula le malheureux. La 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 la. C'est la panique dans l'assistance. Vendée Clébard tente de s'échapper. Jean-Louis lui projette une lance qui lui transperce sur le gosier. La 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 la. Puis prend Madame de la Fressange sur le beau mobilier d'acajou et sodomise sa fille France qui l'égorge du même coup. La 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 la. Après avoir pendu Vassière qui se balance en roulis au rideau, il prend le pauvre Rubinstahl et l'empale sur le porte-manteau. Vous avez vu ce qui s'est passé chez les de la Fressange? C'est sûrement parce qu'ils étaient de gauche. La morale de ce récit, vous l'aurez bien entendu deviner, c'est que chez les bourgeoises aussi, on sait s'y prendre pour s'amuser.
Eh bien, vous venez d'entendre le Cirque des Images qui interprétait chez Madame de la Fressange. Voilà. Le thème de ce soir, Eric. Rappelle-nous le
thème. C'est le thème, c'est la colonisation, la décolonisation, le colonialisme sous toutes ses formes, et notamment ses formes modernes, dont l'exploitation de certains travailleurs, pour ne pas dire de tous. Alors cette émission s'inscrit bien sûr dans le cadre de la semaine anticoloniale qui aura lieu dès la semaine prochaine, ou dès cette semaine, je ne sais plus.
Et je crois que c'est le 25-26, voilà. Enfin notamment il y a des manifestations. Bon. Vous irez sur internet.
Voilà. Donc c'est une émission de circonstances, et doublement de circonstances, puisqu'on est aussi dans un mouvement de... Alors, il y a différents thèmes que la chronique nous a livré un petit peu, notamment le wokisme, toutes ces... voilà, les théories qui nous viennent d'ailleurs et qui sont l'expression d'un nouveau colonialisme, peut-être.
Ouais.
Et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, moi. Voilà. Ouais. En plus, voilà. Donc voilà, une émission qui démarre sur les chapeaux de roue avec un... comme... c'est assez caricatural, cette chanson, cette interprétation de Madame de la Fressange. Alors, tous les aristos ne sont pas comme ça. Hein,
Ils sont pires.
Ils sont beaucoup plus tristes.
On aime les voir comme ça.
Voilà. On est un peu dans la caricature, mais ça existe. Ça existe ici. Je peux vous l'assurer. Mais voilà. Donc, c'est intéressant parce que le voyage au Congo, alors, ça nous ramène aussi à l'époque que tu citais dans ta chronique, à savoir la fin du dernier quart du 19e siècle, avec la deuxième expansion coloniale, enfin pour ce qui concerne la France, hein, deuxième expansion coloniale française, et les années, la fin des années 70, début des années 80, avec en fait la vie de la République, enfin, qui se construisait, la République française, avec tous ces ferrets et compagnie.
La République, effectivement, veut exporter. Alors, il y a le discours, hein, et puis il y a les faits. Veut exporter son modèle de civilisation, hein, de liberté, égalité et fraternité. Ça, c'est le discours. Alors, c'est vrai qu'il y a dans les années 80, une sorte de dépression.
82.
Qui fait que... Ouais, t'as l'air de bien connaître, c'est bien. une dépression qui fait que, l'économie stagne. Et il faut développer des marchés, aller chercher des ressources un petit peu ailleurs. Donc, sous prétexte d'apporter sa lumière aux autres pays, et on va en profiter pour piller les pays.
Oui.
Est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça, à mon niveau?
Oui. Ouais. Oui, c'est une façon de. Oui, c'est une façon de. Alors, ça s'est fait, c'est un peu plus compliqué, parce que forcément, il y a une conjonction de facteurs. Après la Commune de Paris, il y a eu une décennie de. Une toute petite décennie, c'est moins qu'une décennie finalement, d'un retour à l'ordre moral, hein, une espèce de. Avec l'Église à nouveau prend beaucoup de place dans l'espace public, on re-christianise, il y a des mouvements importants pour ressaisir en fait la population française, hein, qui s'était un peu en partie égarée. C'est une des composantes, après le krach de 1882, la crise économique de 1882, ça va donner une caution morale à l'expansion coloniale. C'est-à-dire que, grâce à l'appui du clergé, une partie du clergé, on va aller apporter la bonne parole et délivrer les populations ignorantes. En même temps que leur soutirer un petit peu de bauxite, de cacao, de café, tu ne sais quoi encore.
Alors, déjà en 1830, quand Charles X mène ses campagnes en Algérie, c'est déjà pour délivrer les esclaves chrétiens. Voilà. Alors, moi, c'est le prétexte que j'en ai retenu. Et l'Algérie, donc les Français ont donc un pied sur le continent africain et vont pouvoir, ça va être la base de toute une expansion, de toute la colonisation du reste. Alors ils vont pas être les seuls, hein, à se partager le continent africain et pas que. Mais c'est depuis l'Algérie que toutes les expéditions vont partir en fait.
Oui, disons que d'abord l'Algérie c'est pas très loin.
Vous traversez la Méditerranée. Voilà.
Ouais, c'est mieux que la Namibie ou la Zambie, pas que la Namibie ou que le Transvaal. C'est un concours de circonstances. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de courant colonialiste important en France. La France, c'est un pays assez auto-centré, quoi. On est assez nombriliste, on se satisfait de nous-mêmes et à nous-mêmes. À part l'épisode napoléonien où là il y a une espèce d'expansion à la fois grossière et démesurée, mais tout le travail antérieur et le travail postérieur à part la parenthèse de la Révolution, surtout de l'Empire, où il y a une volonté avec la Révolution, et l'Empire d'aller porter la liberté au peuple dominé par les rois. On essayait de construire un pays à peu près un espèce de prix carré, à peu près correct. Il fallait de temps en temps aller foutre une branlée aux voisins, et puis comme ça, ils se calmaient, et puis se permettaient de compléter le puzzle. Et puis c'était une nouveauté en fait, c'est la Révolution qui a qui est allé, voilà, qui au passage n'a pas fait grand chose à part déclarer déclaration de principe contre l'esclavagisme, pas fait grand chose pour aider les autres,
les peuples opprimés par les monarchies.
Voilà. Et ouais.
On va dire ça comme ça.
On va dire ça comme
pas
ça.
Un républicain, c'est moi. Ouais. Opprimé par le monarque. Les républiques, ça n'opprime personne.
Bah exactement.
On le constate bien aujourd'hui.
Et donc, en 1830, bah, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'on avait. Bon, il y avait des. Ça se chicanait avec comment ça s'appelle, le Dénager, qui. Il y avait des pirates, mais ça, bon, c'est barbaresque. Hein. Et puis, à un moment donné, il y a eu une petite histoire de tarte dans la gueule à un représentant français à Alger. Ça a été le prétexte pour envoyer, avec le maréchal de Bourmont, une petite escouade là-bas. Il n'y avait pas d'intention d'y rester. C'était voilà, on arrive, on met une branlée au type qui est en face, et puis voilà, détends-toi, maintenant... tu vas te tenir tranquille, on fait un peu de commerce, mais ça s'arrêtait là. Et puis, c'est Louis-Philippe qui avait fait partir le mouvement colonial voilà, par tout simplement pour affirmer son pouvoir. Parce que comme il venait de voler une couronne, il fallait bien qu'il justifie auprès du peuple que... Puis ça défoule les soldats, enfin, ça avait toutes sortes de vertus. Ça les occupe. Et puis quand ils se foutent sur la gueule très loin, ils sont pas dangereux à l'intérieur du pays.
Bah oui.
Et puis c'est parti mon kiki, quoi. Et puis ensuite, ça... on a essayé de tirer des ressources d'un pays qui n'en avait pas tellement, finalement.
La déflation, que j'ai appelé la dépression tout à l'heure, mais en fait, ce serait plutôt une déflation. Donc il y a une période de ralentissement économique mondial, en fait, de du 73 à du 196, ça a permis aussi, et surtout après la défaite de 1871, je ne parle pas de la Commune, hein, je parle de l'Empire qui se prend une branlée par les Prussiens, la République qui se met en place dans le sang, mais qui doit payer aussi de lourdes indemnités aux Allemands. Donc tout ça, ça favorise pas un contexte économique florissant. Donc d'envoyer aussi en Algérie des personnes, des ouvriers qui sont au chômage, qui sont à la recherche de travail, ça leur permet de donner, ça leur donne du boulot et puis de pouvoir s'installer. Parce que l'idée de la colonisation, c'est d'avoir du... Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Hein. C'est quand même d'avoir des expatriés qui en fait vont s'installer dans les territoires pour...
Alors l'Algérie a cette... Je te complète en disant que l'Algérie a cette particularité, c'est que c'est une colonie de peuplement. Alors on y envoie bien sûr, comme tu viens de le dire, des ouvriers un camp de travail, ceux qui ont été condamnés après la Commune.
Ceux qui n'ont pas voulu rester en Alsace-Lorraine sous la domination des Prussiens.
Des prostituées, enfin des aventuriers aussi. On y a accueilli des étrangers, notamment des Espagnols. C'était une colonie de peuplement. Ce que ne seront pas les colonies d'Afrique subsaharienne.
Ouais.
Donc, c'était des colonies plutôt d'exploitation. Alors bon, partant de là, ça s'est vraiment... ça a accéléré. Sachant qu'on avait déjà, sous l'Empire, on avait goré, par exemple, des comptoirs avec... comment il s'appelait je ne me souviens plus. Bon, qui contrôlait effectivement l'embouchure du fleuve Sénégal. Et qui était une source d'approvisionnement et d'exploitation. Alors, on n'était pas encore entré très loin dans les terres, mais déjà, dans les années 1860-65, c'était une espèce de tête de pont vers les richesses, en direction des richesses de l'Afrique Afrique centrale. Donc, après, on faisait des petits... très rapidement, et une conquête territoriale, alors, sur les cartes, hein, parce que, à mon avis...
Oui, il pouvait pas être partout.
Il pouvait pas être partout. C'était bien trop grand pour les trois Pékins envoyés là-bas, quoi. Mais il y avait quand même un contrôle, c'est-à-dire qu'à partir... Ça les intéressait surtout de contrôler l'extraction et l'exploitation, et ensuite l'acheminement des richesses. Mmh. Le reste, ils sont en face... Il y avait une petite force policière et militaire pour, bien sûr, pour maintenir tout ce petit monde au calme. Et puis...
Et les entreprises privées aussi, qui, sont, qui se montent, qui oui, exploitent, oui. Et puis qui font un petit peu leur propre... Oui. Justice, peut-être.
Oui, c'est vrai que...
En tout cas, qui appliquent leur notion de droit du travail.
Oui, d'autant qu'à l'époque...
Parce qu'on exporte la civilisation européenne, française, dans les autres continents, mais le droit du travail, c'est pas la même chose. Hein.
Bah, disons que le droit du travail, mais il était déjà pas brillant quand on pense à Fourmis...
Il était pas brillant, mais je crois qu'il était pire là-bas encore. Ouais. Hein. Parce qu'en fin de compte, ça va, les colonies, ça va vite devenir de l'esclavage, en fait.
Oui, une espèce de travail, peut-être même... Enfin, du travail forcé.
Du travail forcé, en tout cas. Avec tout un tas de... Ah, surtout quand on va mettre en... Quand il va être mis en place le statut d'indigénat, avec tout un tas de
catégories.
De sanctions pour... qui vont aller de la corvée, du travail obligatoire.
Et puis dire qu'en fait, c'est dire aussi, c'est maintenir les populations... autochtones, du coup, dans une sous-catégorie. Mais à partir de laquelle il n'est pas possible de sortir pour eux. Enfin, de laquelle, plutôt. De laquelle il n'est pas possible de sortir. Dire, voilà, c'est l'indigénat, c'est, voilà, c'est une population. Elle n'est pas autonome, elle est pas, elle doit obéir et puis produire. Alors, c'est pas de l'esclavage, au sens traditionnel, 18e siècle, hein, le commerce triangulaire, etc., peut-être qu'on peut le connaître, mais c'est entre l'exploitation des prolétaires et le commerce triangulaire. C'est une espèce d'entre-deux. Et forcément avec l'exploitation des richesses... augmentation de la misère. Alors, bien sûr, à côté, on fait valoir les expéditions, les découvertes, mais ceux qui portent les bagages sur les photos, c'est pas les blancs. Quoi.
Et ceux qui portent les blancs aussi.
Ceux qui portent les blancs.
Ils sont dans des petites chaises à porteurs. Là, il y a une sorte de hamac. Là, c'est, quand on voit les documents, c'est assez...
Après, c'est une catégorie de la population africaine qui est destinée à ce type de parce que la colonisation, pour qu'elle puisse durer, elle s'appuie sur des élites locales, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que ça grogne un peu en ce moment. Le président Macron fait des visites en Afrique, il se fait un peu tacler, mais ça va pas durer. Parce qu'il y a toujours une espèce d'ascendant qui revient de la. Alors c'est l'ascendant politique, économique, militaire sur les États africains. Quoi.
Ouais. Alors il n'y a pas eu qu'en Afrique, hein, au Moyen-Orient aussi, je crois qu'on est. Les uns comme les autres, c'est-à-dire les Français comme les Anglais ont bien foutu la merde quand même. Ont bien maintenu justement, je crois qu'il y a aussi pour moi un intérêt de maintenir justement un climat de, peut-être pas de chaos, peut-être le mot peut-être trop fort, mais d'instabilité, en tout cas, pour justement pouvoir se présenter comme ceux qui vont maintenir l'ordre, rétablir l'ordre.
Le garant d'une paix sociale et d'une paix intérieure. Les Anglais ont très bien, plus que les Français, ont parfaitement réussi ça, avec trois Pékins. Il n'y avait pas grand monde comme force armée aux Indes, par exemple. Les Anglais n'ont pas envoyé énormément de monde, hein, même si On a fait des films là-dessus, il y a eu de la littérature, et c'était Grand Guignol, mais ça représentait quelques milliers de personnes, pas plus. Alors qu'il y avait un sous-continent qui était immense déjà, très très peuplé, de plusieurs centaines de millions d'habitants, donc dans le début du XXe siècle. Mais les Anglais organisaient l'exploitation, mais avec une maestria incomparable. Et en jouant justement sur la tradition, donc la tradition qui était déjà, on vit dans une société de caste et attention, faut pas que ça bouge. Ils se sont servis de ça pour maintenir la pression en disant, voyez, les castes supérieures, si vous voulez pas que ça soit le bousin dans votre truc, bah, vous nous écoutez, nous on va maintenir tout ce petit monde et vous serez assuré de conserver un pouvoir, même si c'est un pouvoir qui est inférieur au nôtre, parce que quand même, faut pas déconner, et on va assurer la paix civile. Ça peut empêcher les... Et on va réprimer les éventuels soulèvements, ou vous aider à réprimer les éventuels soulèvements lorsqu'il y a une minorité, de je sais pas où, là, qui est pas contente, parce qu'elle est payée, elle est pas payée justement pour le travail qu'elle fait.
Et ça, effectivement, les Français ont eu du mal à... Enfin, ils n'ont pas pris en compte. Alors, évidemment, les Anglais, s'ils respectent les castes en Inde, c'est pour servir leurs intérêts.
Ah bah oui,
on a bien compris. C'est pas par le respect des traditions. C'est parce qu'ils ont compris que c'était comme ça, une meilleure façon de pouvoir maintenir l'ordre social. Mais même ça, les Français, ils n'ont même pas réussi à le comprendre dans les... Dans les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique tout court, en fait.
En fait, c'est parce que les... Moi, je pense, alors c'est une piste de réflexion, je me trompe peut-être, j'en sais rien. La Grande-Bretagne, c'est une monarchie. Et donc, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus féodal que la société anglaise. Ouais. Déjà, tout le prolétariat souffre énormément en Angleterre. Hein. Comme au Pays de Galles, comme en Écosse, il y a énormément de pauvres. Les Irlandais, en 1850, ils crèvent la dalle. D'ailleurs, c'est une colonie, hein, l'Irlande. Hein. Donc, ils sont exploités, malmenés, dans les pires conditions. Donc, en fait, quand ils vont s'exprimer, alors ceux qui vont ensuite s'engager dans l'armée ou dans le machin, ou décident de faire une carrière coloniale, ils vont se retrouver finalement avec les mêmes construction mentale qu'ils vont transposer dans le pays dans lequel ils vont évoluer. Donc forcément, les castes, ça leur va bien. Hein. Ils vont s'arranger avec les... je ne sais pas si c'est la première caste, c'est les castes de... Je ne sais pas lesquelles, je ne me souviens plus. Je crois que c'est les prêtres. Ouais, en Inde. Les prêtres, après il y a les
intouchables.
Alors c'est tout en bas, ça.
Ah oui, c'est tout en bas.
On s'en fout, c'est aucune importance. Non, ils vont avec les...
Ah mais c'est eux quand même qui triment, j'allais dire.
On peut avoir un peu d'aide, là, de technique. Alors, ouais, au-dessus, ils vont s'intéresser d'abord aux castes de dominantes pour leur dire, bah, écoutez, si vous continuez à dominer, bah, faut aussi un peu nous faciliter le transit. Faut que, voilà, on a un intérêt commun à maintenir cette situation sociale. Donc, on collabore. Bah oui. Et les Anglais pouvaient... Enfin, moi, je pense qu'à la différence des Français, les Anglais ne pouvaient pas penser autrement parce qu'ils étaient dans une monarchie qui est une Grande-Bretagne qui est un régime très féodal, socialement.
Ils étaient en communion avec les classes dirigeantes.
C'est ça, oui.
Qui avaient le, ouais.
Alors que la République française... Alors, on pourrait dire que finalement, il y a un régime d'exploiteurs, différemment, mais... La structure, d'abord, la Révolution française avait quand même en partie atomisé la société d'ordre avec les prêtres, les nobles et le tiers état. Ça n'existait plus en tant que structure et ça faisait quand même un siècle qu'on avait exploité. Et puis là-dessus était passé tout ce qui est de l'ordre du le césarisme, le parlementarisme, le socialisme sous toutes ses formes. Donc on avait quand même, ça avait brassé pas mal. Et on y est arrivé dans les années 1870-80 avec un autre cadre mental. Donc je pense que ça a dû jouer dans l'espèce d'un... pas savoir si on devait à la fois libérer ces peuples, parce qu'il y a une partie du discours qui doit être, à mon avis, certains l'ont construit, c'est parce qu'ils y pensaient vraiment, enfin, c'était, même si d'autres s'en sont servis. La libération...
Pas convaincu, mais...
Oui, mais Forcément, il y a des...
Il y en a peut-être un, oui,
ouais,
qui a conçu comme ça.
Et puis derrière, on s'en est servi, mais en étant dans l'incapacité de mettre ça en musique, quoi. Parce que le cadre mental n'était pas celui de la structure rigide. Alors, on s'est appuyé sur les chefs, quand même. Hein. Les chefs de...
Ouais.
Parce que c'était les seuls référents stables aussi. Repérables et stables. Qui avait dit qu'on a maintenu au pouvoir, qu'on a continué ensuite avec la France-Afrique, hein, 100 ans après. Donc je pense que ouais, les Français ne sont pas allés avec le même état d'esprit et les mêmes prérequis psychosociaux. Ouais, c'est une idée. Étonnant.
Eh bien, c'était... Je sais plus qui c'était.
Les plages du Congo.
Oui, oh là là. Oui, mais le groupe, je me souviens... Attentat Rock, excusez-moi. Voilà, groupe des années 80, ça me fait plaisir de mettre un petit peu heavy metal sur Radio Liberté. Attends pas beaucoup. Oh là là. Eh ben, c'est agréable pour les auditeurs, on entend des bzz bzz.
Tu l'arsènes.
Ben oui, je sors les larmes. Parce qu'on me fait changer de micro toutes les...
Ah
ouais. Bon, bref. Donc, les plages du Congo... Enfin, attends, t'as rock. Oh la vache. Je vais changer de place.
Oui, les plages du Congo, bah, évidemment, on est dans le ton, puisque le Congo. Alors, c'est pas Tintin au Congo. D'ailleurs, Tintin au Congo, ça aussi, c'est une belle. Un bon symbole du colonialisme, du coup, on n'a pas parlé des Belges, mais qui.
Ils sont bien présents au Congo aussi.
Ah oui.
Je ne sais plus comment il s'appelait, Léopold II.
Léopold II, oui.
Ouais, qui
était propriétaire avant de céder à l'État belge son patrimoine. Donc c'était vraiment.
Ah, c'est lui appartenait en propre.
Ah oui. Ouais. Ah. Donc, du coup, il n'est pas mort pauvre. Donc, parce qu'il a eu le. Alors, le Congo est très riche. Hein. Le Congo, enfin, ce qui était autrefois le Congo, maintenant, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas quel est le nom de l'État, je ne sais plus.
Bah, il a été divisé, de toute façon. Il y avait.
Mais c'est immense.
La République démocratique du Congo, le Congo, qui anciennement était. Ah merde, je ne me souviens plus.
Zaïre.
Zaïre, ouais. Voilà.
C'est vrai, ouais, c'est la partie belge, il me semble. Hein. La partie belge, c'est Zaïre. Mais c'est, d'ailleurs, ils sont toujours en guerre parce qu'il y a énormément de richesses. Et donc, les guerres, elles sont le résultat de la volonté d'accaparement des richesses. Voilà. Donc,
du fractionnement, effectivement, du territoire pour, justement, pour attiser justement les divisions. Et puis justement, pouvoir permettre aux Occidentaux de venir mettre un petit peu d'ordre.
Bien sûr.
Ou de désordre.
Alors, effectivement, on a parlé de la phase coloniale brièvement, comme ça, dans les grandes lignes, mais il y a eu ensuite la phase de décolonisation, qui a été quand même assez violente. Alors longtemps, on a entendu que la décolonisation à l'anglaise s'est faite intelligemment et en douceur, ce qui est totalement faux. Que la décolonisation française a été un échec, ce qui est en partie vrai. Donc, c'est pas parce que en 1960, tout le monde, enfin les Français sont retirés en donnant leur indépendance à un tas d'États, par ailleurs, dont les frontières ne correspondaient en rien aux aspirations des populations. Hein, et puis de toute façon, c'est pas aux populations locales qu'on donnait l'indépendance, c'était à des États et à des élites qui souvent avaient fait leurs études en France, ou en Occident du moins. Donc déjà, ça biaise un petit peu l'avenir de l'État nouvellement créé, et puis qui, on sait très bien... notamment chez les libertaires, que toute création d'État, c'est forcément la création d'un pouvoir oppresseur. Donc ça n'a pas arrangé les choses, on a simplement changé. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas changé de patron, il y avait deux patrons. L'État, le nouvel État, et la France-Afrique. Parce que derrière, il fallait continuer à avoir de bonnes relations avec les nouveaux États pour pouvoir continuer à bénéficier des ressources naturelles et autres. Donc voilà, ça s'est passé entre 1945 et 1977, parce que les Afarissa, donc Djibouti, ça a duré encore en 1975-1977, il y en a quelques... Les reliquats de l'empire colonial français. Mais pour les Anglais, c'est pareil. Ça a été... La preuve, c'est que rien n'est réglé. Ils ont laissé la paix qui a duré 5 minutes, et ensuite, il y a eu des guerres. Alors, c'était plus avec les Anglais, ni contre les Anglais. Donc, ils étaient moralement tranquilles, sauf qu'ils ont laissé un tel cirque dans l'organisation des territoires, qu'il y a eu des guerres, et qu'il y a toujours une guerre entre l'Inde et puis le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, enfin voilà.
sans parler. Les Occidentaux qui, dans leur colonie, ont mis en place des systèmes de réseaux de voies de communication, un système de chemin de fer. Alors, qui n'était pas pour faciliter le déplacement des populations indigènes vers leur lieu de travail, hein, comme on a en région parisienne. Mais c'était vraiment pour transporter les... Non mais c'est les richesses d'une mine au port le plus proche en fait, hein, un petit peu ça. Donc ça ne sait tout ce que les... Alors je pense en Afrique notamment, en Afrique subsaharienne, tout ce que les milliers de morts, parce que ça se compte en milliers de morts, hein, parce que, bref, de travailleurs ont péri, en fait, juste pour les intérêts de la France, même pas pour l'intérêt de leur pays. C'est,
Et puis pour les intérêts surtout de grandes sociétés minières ou de grandes sociétés d'exploitation forestière. Bah, la France, ma foi, a cautionné, alors ça, on peut reprocher, l'État français n'a pas forcément directement exploité, mais il a permis que ça se fasse et il a protégé les intérêts de ceux qu'il faisait. Donc en fait, ils sont complices.
Ouais.
Et l'exemple le plus parlant, enfin un des exemples, c'est la Mauritanie avec la ligne de chemin de fer pour le bauxite et puis le phosphate, où on est en plein désert. Et effectivement, ça a coûté énormément de vie humaine d'arriver au port atlantique. Alors je sais, c'est une Nouakchott, un truc comme ça.
Parce qu'en général, on n'utilise pas de... On utilise des hommes et des bêches.
Ouais. Oui, hein, ah bah oui.
On va pas te prendre des tracteurs, des pelleteuses. Des... Non. On prend des bonhommes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts aussi. Hein. Mais ça se coûte, ça se compte. Hein. Une construction d'un chemin de fer, c'est 20 000, 30 000 morts. Hein.
C'est ça, oui. L'Asie du Sud-Est également. Parce qu'après l'impérialisme britannique, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'impérialisme japonais qui est venu surexploiter certaines régions. En Birmanie, enfin, les Japonais se sont conduits comme avec les Coréens et les Chinois, c'est-à-dire non seulement en colons, en exploiteurs et en assassins, parce que la vie des travailleurs qui traçaient finalement les lignes économiques, les lignes de chemin de fer économiques uniquement, ou militaire, parce qu'il fallait aussi que ça serve aussi un peu à corriger tout ce petit monde, ils n'avaient aucune importance. Ils étaient à peine nourris, et puis de toute façon, la vie de ces personnes n'avait aucune valeur.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de racisme derrière tout ça? Est-ce que, en tout cas, du mépris de personne, ça c'est certain, mais en plus, est-ce que le mépris n'était quand même pas... Alors, peut-être pas du racisme, du racialisme, on dirait, je dirais plutôt.
Oui, et puis... oui, il y avait une... Bah, je pense, oui, bah, effectivement.
Que ce soit les Japonais envers les Chinois, Coréens, les Birmans, et puis les Français, surtout peut-être ceux qui sont sur le continent colonisé, envers les populations autochtones.
Bah, quand
et puis les Anglais aussi, sur tous les autres.
Quand un État, par exemple, envoie ou favorise l'expansion coloniale avec pour slogan « on leur apporte la civilisation », on fait...
Mais c'est que déjà, on les prend pour des sauvages.
Et c'est pour des non-civilisés. Voilà, y a un parti pris hiérarchique, enfin culturel, racial, bien sûr. Tout est mêlé, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas ce message. On dirait qu'on tenterait de les exploiter. Alors, je ne dis pas que c'est mieux, hein, mais on se serait contenté de les exploiter de manière économique, en désinguant tous ceux qui s'opposaient à nous, et puis en disant qu'on travaillait les autres, mais sans avoir derrière cette volonté de dire, bah, d'abord, un, on apporte la civilisation, deux, on va évangéliser toutes ces populations dont on ne connaît pas trop bien les pratiques. Parce qu'il faut en faire de bons chrétiens, il faut en faire de bons ouvriers, de bons sujets, enfin, en tout cas, de... Voilà. Donc derrière, effectivement, il y a tout ça, toute cette propagande qui est au service, pas de la... J'allais dire, du maintien du couvercle sur la cocotte minute, hein, c'est-à-dire la paix sociale, tant qu'on a des intérêts, enfin, tant que les grandes compagnies minières, forestières, ont des intérêts et que ces compagnies, comme aujourd'hui, font du lobbying auprès des parlementaires pour voter des lois, pour voter des décrets pour, en faveur bah, de leurs intérêts économiques et financiers. Mais ça change pas. Il y a juste la forme qui change.
Bah, moi, je pense aussi que l'intervention, enfin la colonisation, ça, justement, ça va servir aussi les intérêts après la décolonisation, dans la mesure où, de toute façon, tu imposes aux habitants, dans les territoires, tu imposes une culture, une exploitation forestière, donc tu détruis leur économie locale, en fait. Donc effectivement, ils peuvent se barrer après les colons en disant « bon, ben, on vous laisse le pays », mais de toute façon, tout étant foutu en l'air...
Ah bah c'est déstructuré, oui.
Et il faut bien... foutu le bordel,
ouais,
en fait.
Ne serait-ce que l'organisation des communications, le temps, parce que le temps en Afrique, en Asie, enfin, encore, je taille ça un gros coup de serpe, hein, puisqu'il y a tellement de différences socioculturelles à l'intérieur du continent africain qu'on peut, voilà, c'est un peu bon, c'est pour aller vite, hein. Le temps d'un travailleur en France et le temps d'un travailleur je sais pas au Sénégal ou au Zaïre ou en Mauritanie n'est pas le même. La valeur travail, puisque c'est le sujet qui fait beaucoup débat aujourd'hui, la valeur travail c'est pas la même. Le temps de vie, le temps, la notion de richesse, la notion d'échange économique, ce ne sont pas les mêmes. Enfin, je veux dire, on sait très bien qu'on a essayé de calquer, parce qu'on a essayé d'emmener tout le monde à travers des institutions internationales comme le FMI ou comme je ne sais pas quel organisme international qui sont là pour gérer les intérêts des grosses multinationales et puis des possédants du moment, mais ils ne peuvent pas s'inscrire dans ce type de... Ils sont ininscriptibles dans ce type d'organisation, même si on les invite à y participer. Et là, c'est tout le paradoxe, pour moi, de faire participer des nations surendettées ou totalement exploitées, qui ne maîtrisent pas politiquement et économiquement leur territoire. C'est quoi l'intérêt d'avoir pour eux un siège de représentant dans une... Je sais pas quoi, une banque quelconque internationale ou un organisme de gestion de l'eau. Enfin, waouh, c'est tout juste lunaire, quoi.
Enfin, si tant est que les personnes qui ont un siège s'intéressent vraiment.
Ah bah non.
Alors. S'ils s'intéressent peut-être plus à leur rémunération.
Ah oui, parce qu'en fait, faut pas croire que les Alors aujourd'hui, on est à 60 ans après la colonisation, plus de 60 ans après la. Enfin, grosso modo, la dernière grande vague de décolonisation, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'autres ont pris le relais des puissances coloniales historiques telles qu'on peut encore les voir dans les livres, les manuels d'histoire. Et ça a commencé par les propres gouvernements de ces populations. Il n'y aurait pas sans cesse des coups d'État et des rébellions. À partir du moment où il y a des rébellions, c'est que il y a une partie de la population qui souffre d'une injustice sociale, de ne pas pouvoir participer à l'élaboration de son propre projet de vie. Pas dire que, pourquoi est-ce qu'on tracerait une grande autoroute dans ma forêt ? Enfin, je veux dire... pour faire quoi ? De toute façon, j'ai pas de voiture et puis je sais pas lire et pas écrire parce qu'on a fait en sorte que ça soit comme ça. Donc je vois pas l'intérêt que vous construisiez une route dans la forêt, quoi. Par contre, la forêt, moi, elle me sert parce que j'y suis bien, parce que en tout cas, j'y ai mes habitudes. Après, j'y suis bien, c'est peut-être autre chose. Mais j'y ai mes habitudes, j'en tire une certaine ressource, je sais faire, je maîtrise et que finalement, si vous m'achetez mon produit au prix qui est que je demande pour pouvoir vivre correctement, moi je ne demande pas plus. Hein. Mais il faut quand même que vous me fassiez chier pour construire parce qu'il y a des camions avec plein de Chinois qui viennent pour exploiter 800 000 hectares au cœur de l'Afrique. Parce que là aussi, hein, on parle des nouveaux colonisateurs comme les Chinois. Bon, je suis désolé, mais ils achètent, ils louent, ils sécurisent, ils ne font pas travailler les populations autochtones. Il n'y a pas de collaboration. C'est purement de gouvernement les branle-mous de Pékin, l'autre, l'espèce de fou furieux, je ne sais plus comment il s'appelle, au potentat local, et puis tout le monde s'aligne, quoi. Et puis sinon, c'est le bâton. Enfin, je veux dire, en fait, ça n'a rien changé du tout, quoi. Et maintenant, tu as les Ruskov avec tous ces malades là nom de compositeur, Wagner, qui viennent jouer les messieurs bons offices pour les intérêts d'un certain nombre de, d'abord du gouvernement poutinien, pas des Russes, hein, du gouvernement poutinien, c'est pas pareil, et puis de tous les oligarques qui ont du pognon en jeu dans ces contrées, quoi. Donc je dirais que je suis pas pessimiste, mais bien, ça appelle pas l'optimisme.
Hein. Ah, c'est vrai que le colonialisme a changé un petit peu de figure.
Oui.
Parce qu'effectivement, tu n'as plus besoin d'avoir ta propre structure, comment dire, pas dirigeante, mais administrative sur place. Hein, tu utilises ce qu'il y a, tu as juste envoyé des hommes, des mercenaires. Puisque tu citais Wagner pour... pas le musicien, hein.
Oui.
C'est mercenaire.
Ouais. Ouais. Je ne sais pas vous dire ce nom de Wagner. Mais...
Oh, bah, je ne sais pas, ça me donne une petite idée, une vague idée.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Mais bon. Oui, donc en fait, ce qui t'envoie des militaires pour maintenir l'ordre, pour combattre un petit peu des factions rivales qui sont aussi propres que les mercenaires d'ailleurs.
Ah oui,
mais en fin de compte, le colonialisme, il se fait directement par les tractations économiques.
Bien sûr.
Et puis, l'échange de contrats.
Alors, pour maintenir l'ordre ou pour semer le désordre. Parce que c'est une autre façon de maintenir l'ordre aussi. Parce que tu contrôles d'autant mieux les sources de richesse que c'est le boxon et que plus personne ne contrôle rien. C'est-à-dire que tu dis que tu as sorti de la mine, je sais pas moi, 100 kilos d'uranium ou 200 tonnes de bauxite ou 1000 tonnes d'or. En fait, tu en as sorti deux ou trois fois plus. Tu as arrosé tout le monde, toi d'abord. Et puis le pays, on a sorti 2000, les types qui sont morts au fond de la mine, ils ont sorti 2000 tonnes d'or. Ok, et là-dessus, il y a une transaction ouverte, une transaction commerciale ouverte, mais à côté, il y a le double, le triple qui est parti ailleurs pour arroser un système mafieux, parce que les Wagner, ils ont beau être des guerriers de la mort qui tue, c'est des trous de balles. En face, tu mets des soldats de n'importe quelle armée régulière africaine, ils se font bouffer. Donc, il y a un moment donné, c'est des personnes qu'on a payées pour qu'elles ne fassent rien. Et on a payé leur chef pour qu'ils ne fassent pas intervenir l'ordre public, c'est-à-dire les intérêts des populations locales. Voilà, donc il faut, sur les 1000 tonnes d'or, à côté, ils font 2-3 000 en plus pour arroser tout le monde et puis maintenir 90% de la population sous la domination des marchands et puis des pouvoirs, des potentats locaux qui, de toute façon, ont beau brailler au colonialisme, au retour du colonialisme, au néocolonialisme, ils y participent. Je suis désolé, ils y participent. Donc. Tout ce qui est connu là, les dirigeants des différents pays ex-colonies qui viennent se faire soigner à Paris, alors que est-ce qu'ils envoient leurs ressortissants se faire soigner à Paris parce qu'on a des bons médecins, enfin on avait, je suppose que c'est un peu le bordel aussi ça.
Il y a toujours le même, les classes dirigeantes ils ont toujours le même mépris par rapport aux populations,
bien sûr.
Elles, il faut qu'elles se soignent, parce qu'elles sont des dirigeants, sont des gens responsables, des gens qui savent, qui connaissent, qui ont la science, qui font le bonheur du peuple. Mais le peuple, il peut crever, lui.
Ah bah complètement, oui. Bah oui, parce qu'il...
Ça ne nous empêche pas, nous, on n'est pas colonisés, on n'est pas... le peuple souverain, ça ne nous empêche pas d'avoir des clodos dans les rues.
Ah bah complètement, ouais. Bah le peuple souvent... Enfin d'abord, il faut savoir ce que c'est que le peuple.
Non,
ouais. Mais t'as raison, mais c'est important ironique, ce que tu dis. Mais oui, je sais, mais alors, l'ironie, ça permet d'ouvrir le débat aussi, la réflexion et le débat. Qu'est-ce que c'est que le peuple? Alors là, mon Dieu, On pourrait faire 10 émissions là-dessus, je crois qu'on n'a pas épuisé le sujet. Le peuple souverain, oh, la souveraineté, la légitimité. En ce moment, je crois que ce n'est pas clair dans la tête des Français et ce n'est pas clair non plus dans la tête de nos dirigeants.
C'est pour ça que nous, syndicalistes révolutionnaires, on va utiliser plus facilement prolétaires, travailleurs, plutôt que citoyens ou gens, peuple. Oui, ça ne veut rien dire, le peuple.
C'est curieux comme voilà. On pourra faire une émission là-dessus un jour avec le philosophe qui était la semaine dernière.
C'est fini.
Bah si, c'est intéressant parce que moi
je dis pas que c'est pas intéressant.
Mais ça lui permettra de bosser sur la question de.
En ce moment, je crois. Il va falloir attendre que les événements sociaux se calment pour qu'ils puissent revenir.
Bon, on en reparlera.
C'est un petit peu tôt, là.
Le colonialisme, oui, mais il a changé d'aspect. Et puis, alors moi, je pense que le temps... On dit souvent, vous disiez tout à l'heure qu'il y a 60 ans aujourd'hui, que la dernière vague de décolonisation officielle, et donc, ils ont acquis l'indépendance, tralala. On sait aussi ce que c'est, qu'ils continuent à être exploités différemment, que l'exploitation, elle continue d'associer d'ailleurs les élites locales, personne ne s'en cache. Mais le temps ne fait rien à faire. C'est-à-dire que je lisais récemment un article sur un philosophe américain qui me fait rigoler parce qu'il est américain. Et états-unien, pardon. États-unien. Je me souviens plus de son nom tellement c'est nul. Mais je reviendrai dessus. Hein. Un jour, je reviendrai le nom. Il faut que je me souvienne. Mais j'ai un peu de problème de mémoire en ce moment. Et en disant oui, que le temps va permettre... une reconsidération des relations entre les ex-colonisés et les ex-colonisateurs. Quéquette, ou alors ils comptent en milliers d'années. Parce que c'est un truc de fou, quoi. Ce qui s'est passé en Amlat, en Amérique latine, avec les conquistadors, etc. Mais aujourd'hui, ça se traduit par 500 ans après, c'est ça à peu près, hein, 500 ans après, il y a toujours les natives, donc ceux qui sont les Amérindiens, quoi, ceux qui étaient là quand les premiers conquistadors sont arrivés. Enfin, c'était pas des conquistadors, c'était au départ trois pélos sur un bateau pour aller plus vite de l'autre côté, pour aller chercher trouver la Chine, voilà, puis aller faire du commerce plus vite par l'ouest. Puis là, ils tombent sur des Indiens. Grand chef à plumes, tout ça, machin. Le mec était plutôt cool ou pas cool. Il a le droit d'être pas cool. De toute façon, il est chez lui. En même temps, s'il met la malle aux dents, un truc comme ça, il te met une tarte dans la gueule. Il fallait pas en faire un fromage non plus, quoi. Et par contre, ils les ont totalement exterminés, ou quasiment. Ils les ont mis en condition de se retirer sur les hauteurs, de se retirer dans les profondeurs de la forêt. Pour se cacher, parce qu'à un moment ils se sont dit putain, si on se fait laminer comme ça, si on se plante pas, on va tous disparaître, quoi. 500 ans après, leurs descendants qui se sont plus ou moins mêlés à la population européenne, hein, de colonisation à la marge, et puis qu'on donnait alors il y a ceux qui sont très très indiens, puis il y a ceux qui le sont
métissés,
ouais. Voilà. Ils vident les poubelles, ils n'ont pas de boulot, ils sont chômedus, ils vivent dans des cloaques, dans des bidonvilles, on leur donne, c'est les premiers à être lourdés en cas de crise, on leur donne des salaires de merde, on les considère, de toute façon, il y a un véritable racisme à l'intérieur de ces États, entre le type qui est dans un bureau... en train de trader, je sais pas quoi, de la barbac en Argentine ou machin, et puis le gars qui est au fond de la pampa avec sa houe et son et qui le considère comme le dernier des clampins, qu'il en a rien à faire en fait, que, et demain il va tracer un pipeline parce qu'il va trouver je sais pas quoi, de l'eau chaude ou du et puis roule ma poule et il va l'exproprier comme une merde. Donc Ouais, il y a une... En fait, il n'y a pas de changement, quoi. 500 ans après, il n'y a pas de changement. Alors, on fait plus attention, parce que maintenant, les Indiens, alors que ce soit du Yucatan, du Chiapas, ou d'ailleurs, ils se rebellent, ils filent des baffes, ils achètent aussi des armes, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, vivre leur vie selon leur propre organisation, quoi. Et en plus, ils envoient leurs gamins faire des études, parce qu'il faut s'accaparer de la connaissance produite par l'ensemble de la société, même si cette société est d'origine européenne, parce que le savoir, ça permet de foutre des baffes aussi, de foutre des baffes à un autre niveau que de sortir son Lebel. Oh, le Lebel.
Eh oui, ah, mais c'est la vieille école, hein.
J'aurais pu dire Chassepot, mais... Ouais, donc en fait, le temps fait rien. Moi, je pense que ça fait que décaler. Alors ça, comment ça atténue. Encore, je suis pas sûr. Non, quand tu vis dans des bidonvilles sur les hauteurs de Mexico, puis bah, tu vois que c'est 80% de personnes déplacées des provinces où il y avait encore des populations indigènes pour aller alimenter par des petits boulots la bourgeoisie locale. Qui est souvent d'origine européenne. Enfin bon, voilà. Non, je pense qu'il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a pas d'avenir. C'est vraiment. Alors, les gars, je pense qu'effectivement, le véritable combat, il est social, économique. C'est dans la lutte des classes, parce qu'il n'y a pas de. La lutte des classes existe de fait. Aujourd'hui, on essaie de vous dire que, bah non, c'est une vue d'une partie de la. De militants égarés. Non. C'est justement parce qu'on nous dit, on répète ça à l'envi qu'il faut se dire qu'il y a un tour, on répète tout le temps la même chose, c'est que non, au contraire, si on répète tout le temps la même chose, c'est qu'il y a un loup, quoi. Mmh. Donc voilà. Alors après, là-dessus viennent se greffer d'autres paramètres, hein, comme la religion ou les religions, hein, mais c'est pareil pour ce qui se passe en Afrique avec. Que tu disais, les populations qui sont déplacées, on va aller au Tchad, t'as les fous furieux de je sais pas quel organisme islamiste.
État islamique.
Ouais, qui. Une espèce de trou de cul complètement. C'est une aberration ce truc-là. Mais ils viennent et ils violentent, ils massacrent, ils exploitent aussi parce qu'ils viennent, ils servent, machin. C'est pour Dieu ou pas, je sais pas. Quelle connerie raconte en fait. Et puis de l'autre côté, bah, t'as Wagner qui arrive, qui alors même, bon, alors c'est toujours les mêmes au milieu qui prennent des tartes dans la gueule.
C'est mieux.
Ouais.
Ils s'habituent comme ça. Ils savent ce qui les attend.
Et puis le troisième acteur, c'est l'État. Il est impuissant pour empêcher les islamistes et les wagnériens de venir s'emparer des richesses et d'oppresser les populations. Mais en même temps, ils viennent pour oppresser les populations parce que de toute façon, ils ne savent pas faire autre chose, parce qu'ils sont, ils sont assez courageux pour oppresser des populations qui n'ont pas d'armes et qui gardent des troupeaux, et surtout des femmes qui font vivre l'Afrique, en fait, parce que c'est l'économie essentiellement féminine. Hein. Les mecs, ils passent leur temps à rien foutre et puis à se taper sur la gueule, alors, puis à croire à des conneries qui viennent de je ne sais pas où.
Alors, bon, il ne reste plus beaucoup de temps, mais parce qu'on parle d'armes, d'armes. D'avoir des colonies pour les Occidentaux, ça a bien aidé aussi pour avoir comment ça s'appelle, de la chair à canon.
Ah oui,
hein,
oui, oui.
Pour aider à combattre nos ennemis européens, on a pu aller chercher les Annamites, les Africains.
Ouais, c'est ça.
Et
les spahis, les tirailleurs, les. Les spahis, les tirailleurs, les spahis algériens, les tirailleurs sénégalais, toutes ces armes qui sont venues se perdre en Europe. D'abord, ils avaient froid, ils avaient faim. On les a pris pour des imbéciles. Et au final, pas de reconnaissance de l'État français. Preuve en est, c'est que certains n'ont toujours pas touché leurs arriérés de pension. C'est une honte.
Ouais, alors là où je voulais en venir, j'ai eu une petite absence, hein. Excusez-moi. J'essaie de loin d'aider à la technique. Mais on aurait pu espérer, justement, plus qu'on a fait venir, effectivement, du sang frais à répandre, comme ça, dans nos sillons. on aurait pu penser que quand ils seraient venus dans leur pays, alors que ça soit après la guerre de 14-18, et c'est peut-être un peu plus ce qui s'est passé, justement, après la guerre 39-45, bah, qu'ils prennent les armes, qu'ils se retournent contre les colonisateurs, parce qu'en fin de compte, ils avaient l'expérience des armes, du terrain. Eux, ils connaissaient leur terrain, puisque je pense aux Africains, bon, ils sont d'Afrique, mais je pense que ça, si ça n'a pas joué après 18, ça a peut-être davantage joué après 45. Donc, en fin de compte, on les a armés, ça a pu leur permettre d'avoir de l'expérience militaire et de pouvoir se retourner contre le colonisateur. Sauf que bah, le pouvoir a resté dans les mains quand même de quelques intellectuels, de quelques savants, de quelques politiciens.
Une petite nomenclatura qui déjà prévoyait que ses intérêts, c'était un jour ou l'autre, le colon s'en irait, ou serait chassé en tout cas, et que préparait déjà leur avenir à eux, aux élites locales, qui étaient déjà les élites précoloniales, en partie, hein, parce que accès à la culture, enfin la culture occidentale, accès au savoir, accès aux richesses, accès au pouvoir, hein, finalement. Donc, ils se sont maintenus. Hein. Je pense que si on avait une petite étude là-dessus, on s'apercevrait qu'il y a quand même des élites auto-renouvelées en Afrique. Au sens, c'est parce que les élites, c'est les élites familiales, les élites de clans, etc. Mais les familles sont très élargies. Hein. Donc, on peut considérer que si c'est le cousin qui a hérité du pouvoir à un moment donné, ou un autre cousin, etc. On n'est pas très loin de l'intérêt de la famille au sens large. Donc moi je pense qu'effectivement il n'y a pas eu de réaction construite ni de prise de conscience. Alors, pourquoi ? Je sais pas. Encore aujourd'hui, hein, c'est difficile quand on est maintenu dans la pauvreté, dans l'extrême dénuement, de se soulever parce que waouh. Ton souci de tous les jours, c'est de trouver à manger, un toit, te chauffer parce qu'il fait froid, parce qu'il ne faut pas croire qu'en Afrique il fait bon tout le temps. C'est des bêtises, ça. C'est parce que...
Et puis même quand il fait trop chaud, c'est pas forcément.
Bah, exactement. Donc, je veux dire, on n'est pas. C'est très hostile. La nature est très hostile. Ta principale occupation, c'est de manger.
De survivre, au quotidien.
Ouais. Ouais.
Puis de toute façon, pour combattre, il faut des armes, hein, c'est mieux.
Il faut être organisé.
Pour avoir des armes, il faut les acheter.
Oui, puis il faut être organisé. Puis il faut avoir confiance. En ses capacités à proposer un autre projet. Je pense que là, c'est pas... on n'est pas en condition. Enfin, ils ne sont pas en condition. La semaine, effectivement, la semaine anticoloniale, en fait, elle a toute sa raison d'être, puisqu'on revient au point de départ, la question qui justifie un peu notre émission, pour laquelle on faisait un peu écho, c'est oui, elle a elle est même beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était autrefois, où, comme tu le disais, il y a un empire colonial avec un colon, avec un état, et puis ça domine, enfin déjà le classique quoi. Là c'est multifactoriel, c'est sournois, c'est encore...
Oui, et puis quand ça change de nationalité, quand le colon change de nationalité, vu qu'il... je pense aux Russes, hein, notamment par exemple au Mali. Ah, j'espère que les auditeurs auraient bien compris qu'on n'était pas colonialiste, hein. On favorise pas le colonialisme français. En tout cas, pas moi. tu chasses les Français du Mali pour mettre des Russes. Alors, effectivement, il y a une tradition française. Tu vois, donc, effectivement, les Maliens. Alors, moi, je pense aux Maliens qui sont expatriés, qui travaillent en France. Et leur vision, c'est, bah ouais, vous en avez assez profité, barrez-vous. Mais en fait, d'avoir des Russes, ça les dérange presque pas, en fait. Il n'y a pas de prise de conscience de, bah non, mais on est en chassin, mais c'est un autre qui vient, quand même. C'est marrant, ça, ce... Alors, je ne sais pas sur place, hein, parce que je ne vais pas en Afrique. Je ne sors même pas de Paris. Je ne sors même pas de la rive droite. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe ailleurs.
Et de gauche.
Mais, ah, je ne sais pas. C'est plus Paris, là-bas.
Oui, non, c'est que... Oui, ben, je ne sais pas, parce que c'est... Oui. Je ne sais pas si les Africains qui travaillent en France... et qui travaillent en France depuis de nombreuses années aussi. Hein,
oui, 20, 30,
ouais,
30 ans.
Toujours, ouais. Même s'ils retournent périodiquement pour des vacances, pour des séjours, quels qu'ils soient, ont vraiment une idée juste de ce qui s'y passe, quoi. C'est parce qu'il y a des filtres, hein. Plus t'es loin, plus t'as des filtres.
Des filtres,
quoi.
Mais ils restent en relation,
ouais.
Quand même. Mais moi, en revanche, je trouve qu'ils ont un bon esprit, quelque part, l'esprit occidental, capitaliste en tout cas. Peut-être pas occidental, mais capitaliste.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui me frappe quand même beaucoup, quoi. Alors, je peux comprendre, hein, que t'as besoin de faire de l'argent pour faire vivre la famille ou une communauté, et tu fais profiter, effectivement, la communauté, en tout cas, si tu fais prospérer ta famille. Mais, quand même un bon esprit capitaliste, donc je sais pas, sur place, comment ils envisagent les choses. Alors, évidemment, c'est comme l'histoire de l'idée de peuple, c'est tellement vaste, il y a tellement de particularisme, diversité, on peut pas appliquer... tout un peuple, une seule façon de penser, de voir.
Oui, et puis il y a quelque chose qui est... Moi, j'ai un truc qui est... Alors, pour parler de colonialisme, de décolonisation et de post-colonialisme, c'est ne serait-ce que l'idée de ces frontières avec des États. Ça, d'un point de vue culturel, est-ce que c'est le choix et politique, est-ce que c'est le choix de populations qui ont eu ça en héritage d'un colon qu'ils ont combattu finalement, parce qu'ils ont... Alors, Afrique, c'est un peu plus compliqué, parce que les Français sont partis sans trop de guerre, à part la guerre d'Algérie qui était... Mais ça c'est pas traduit par des guerres, quoi. C'est plutôt de la décision politique, même si le traitement antérieur n'était pas jojo des populations locales. Mais, je me dis, voilà, on est sur un modèle un peu particulier. Alors bon, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Peut-être que c'était une structure dont ils... Ah, après, on les a un petit peu formés. Enfin, on les a. L'État français les a un peu formés. La petite bourgeoisie locale a travaillé selon leur méthode. Hein. Déjà, la langue. Ensuite, la méthodologie administrative, le découpage administratif, l'organisation sociale, etc. Je pense que oui, là, ça fait... poser l'empreinte, et là, ils ont fait avec, quoi. Ils ont fait avec, et ils ont fait avec parce qu'ils savaient faire avec, quoi. Et donc, finalement, ils n'avaient peut-être pas envie de revenir à d'autres... un autre type d'organisation territoriale ou politique, j'en sais rien. Après, c'est un débat de spécialiste.
Mais.
Bon, ça empêche que, d'un point de vue économique, c'est quand même... ça reste de l'exploitation, puisque aujourd'hui, l'Afrique, à nouveau, est l'enjeu de... prédation de la part de différentes puissances. Sinon, pourquoi on aurait aidé des Français, et des industriels chinois, des industriels russes et des... Voilà. Hein. Il y a quelque chose à prendre.
Mais non, c'est pour les aider économiquement.
Ça doit être ça. Hein, c'est pas
ce sont des philanthropes.
Des philanthropes.
Voilà.
Des philanthropes. Des fils à la patte, entre
eux.
Et bon. Puis, oui... Vous voulez dire quelque chose?
Je voulais peut-être. Dire que t'as encore beaucoup de choses à dire.
Bah oui, j'ai un peu pas mal...
Là, c'est un survol du colonialisme, parce que c'était l'occasion, parce qu'il y a la semaine anticoloniale et antiraciste. Oui. Sauf qu'on arrive quand même à la fin d'un peu de notre émission, donc tu veux conclure peut-être?
Je dirais que le... Je sais pas, je fais une distinction entre le colonialisme et le racisme. Il n'y a pas forcément de corrélation. Après, ça dépend comment on regarde la chose, quoi. C'est pareil, il y a des échelles assez, assez nombreuses. Parfois, le colonialisme et le racisme se juxtaposent ou se superposent, je ne sais pas comment dire, ou se mélangent. Et parfois, ça n'a rien à voir, quoi. C'est autre chose. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit judicieux.
Je ne pense pas que ce soit purement... racisme, je pense pas que tous ceux qui sont allés constituer l'exploitation coloniale étaient racistes. Mais il y en a eu quand même un peu, je pense.
Ouais,
après, puis... peut-être pour les locaux, tu vois, pour les, enfin, je veux dire, pour les colons, vraiment, qui étaient sur place, les populations, les colons de peuplement, enfin, eux, ils ont sans doute développé un certain racisme. Je ne suis pas sûr que les gouvernements, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est ramasser de l'oseille et exploiter des...
Ah oui, très clairement, oui. Et puis, moi, je pense qu'il y avait des... Enfin, les peuples, entre eux, mais on l'a bien vu en Europe depuis très longtemps, en fait, il y a un dénigrement de l'autre qui est assez, assez époustouflant, quoi. Qui n'a pas... les Français par rapport aux Espagnols, aux Italiens, à certains moments de l'histoire où on s'est montré beaucoup plus fort, violent, dominateur, et puis on les considérait, puis on les a exploités aussi, je veux dire, leur donnant des métiers peu qualifiés et pénibles. Enfin, je veux dire, voilà, je reste sur mon idée. Colonialisme et racisme, c'est pas forcément à mettre... moi, je mettrais pas ça sur la même thématique. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ceux qui le font, je leur laisse la responsabilité de le faire.
Voilà, on va rester sur cette interrogation. Et on va passer, puisqu'il nous reste 2 minutes, donc c'est-à-dire 1 minute pour passer quelques annonces. Sachez, chers auditeurs, que le dimanche 26 mars à 15h, au 33 rue des Vignoles, vous pourrez découvrir Babylone ou le rêve managérial. Alors, comme je n'ai pas amené mes lunettes, je ne pourrais pas vous dire de qui c'est. Tiens, tu peux regarder, toi. C'est en vert, là.
Ouais, bah, c'est voilà. Pas des lunettes qui me poussent.
C'est une canne.
C'est une canne. Alors...
Non, bon, c'est pas grave.
J'arrive pas à lire. Franchement, j'arrive pas à lire, c'est très pénible.
En tout cas, c'est dimanche 26 à 15h. Voilà, c'est entrée libre. C'est organisé par la. Être précis, 60. Non, par EdPix 94, semble-t-il. Donc, c'est du théâtre. Théâtre et débat. Voilà, à 15h, le 26 mars, au 33 rue des Vignoles, à Paris, dans le 20e. Notre prochaine émission, à nous. Eh bien, ce sera le 3 avril, lundi 3 avril, avec le collectif anti-olympique.
Très bien.
Un thème sera l'urbanisme et travail. On va recevoir donc une invitée, Nora, normalement. Hein, j'espère qu'elle va venir. Donc, vous pouvez toujours nous écouter sur Radio Libertaire 89.4 MHz. On vous rappelle en passage que c'est bien de soutenir la radio financièrement. N'hésitez pas à diffuser effectivement les créneaux horaires, hein, inciter vos proches à écouter Radio Libertaire. Il y a quand même quelques des émissions pas mal que vous pouvez retrouver donc en podcast sur www.radio-libertaire.net sur internet. Et voilà. Et le 4e mardi du mois, vous aurez Sévices publics le 22 mars avec le camarade Bernard. Voilà, du syndicat de l'énergie. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Donc on se retrouve le 3 avril, 19h30-21h, avec le collectif anti-olympique. Et ben, Ciao.
Ciao.
À plus.
À plus, à plus.
D'abord, faut plus de gouvernement. Puis, faut plus non plus de république. Plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Qu'à moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.